Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Cette semaine, le monde catholique a célébré le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes, apparitions qui ont débuté exactement le 11 février 1858. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un livre vient d'être publié par deux journalistes justement sur ce sujet, Baudouin Échappas et Jean Omnès, c'est le nom des deux journalistes, et le titre du livre, Les archives secrètes de Lourdes. Baudouin Échappas, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de venir me rejoindre dans les aventuriers de l'étrange. Vous allez nous servir de guide dans ce méandre des archives que vous êtes allé consulter. Alors, les archives secrètes de Lourdes, c'est évidemment un titre très accrocheur. Et je serai complet quand j'aurai donné le nom de l'éditeur. C'est aux éditions privées, voilà qui est fait. Mais est-ce que vous avez fait des découvertes réellement inattendues ?
Oui, on a donc, comme vous le dites, consulté un certain nombre d'archives qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été trop arpentées. Le clin d'œil est évidemment un clin d'œil aux archives secrètes du Vatican.
Ouais.
Parce que c'est ainsi qu'on nomme le service de documentation qui est au Saint-Siège. Mmh. Alors, les archives secrètes, on les a consultées aux archives municipales, aux archives départementales et aux archives du sanctuaire. Mmh. Et on y a découvert un certain nombre de documents qui n'avaient jamais été publiés à notre connaissance et qui donnent un jour nouveau, un éclairage nouveau sur les événements de Lourdes.
Bien, alors nous allons y revenir en détail, bien entendu, et nous allons reprendre avec vous ce dossier, éplucher les documents que vous avez exhumés et qui, vous l'avez dit pour certains, sont tout à fait inédits. 0826 300 300, si vous voulez apporter votre caution, réagir, apporter votre témoignage à cette émission, ou tout simplement vous m'envoyez un petit email à étrange@sudradio.fr.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Baudouin Échappas est mon invité pour la publication de son livre avec un autre auteur, Jean Omnès, un autre journaliste, livre intitulé « Les archives secrètes de Lourdes » avec le sous-titre « Aux sources des miracles », c'est aux éditions privées. Baudouin Échappas, est-ce que on vous a volontiers ouvert toutes les portes pour pouvoir accéder comme vous le désiriez à toutes les archives ? Ou alors est-ce que vous avez rencontré quelques réticences ou quelques questionnements ?
Alors là, c'est la première surprise de cette enquête. On nous a ouvert très facilement les portes des archives. Mmh. Moi, je suis journaliste depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait plusieurs livres enquêtes sur différents sujets. J'étais habitué à ce qu'on me ferme les portes et que je sois obligé de passer par la fenêtre pour rentrer dans les endroits qu'on m'interdisait.
Ouais.
Et là, de manière très surprenante pour moi, les gens nous ont accueillis de manière extrêmement chaleureuse, extrêmement ouverte. Je ne dirais pas qu'on a eu accès aux documents forcément dans la minute à chaque fois. Il a parfois fallu insister, il a parfois fallu un petit peu, pas ruser, mais en tout cas être obstiné. Mm-hmm. Mais vraiment ces documents, de toute façon c'est des documents publics pour la plupart, puisque les documents que nous publions sont soit des rapports administratifs, soit des correspondances anciennes mais qui ont été versées au service d'archives.
Ouais.
Donc comme vous le savez, il y a une loi qui oblige les services d'archives à ouvrir leurs portes aux chercheurs et aux historiens.
Oui, mais enfin, sur un dossier que je vais peut-être qualifier d'assez sensible, certains documents peuvent amener parfois, comme ça, avec le temps, à disparaître. Voilà quoi.
Alors, il est certain que, comme dans tout service d'archives, un certain nombre de documents ont disparu, à Lourdes comme ailleurs.
Oui.
C'est lié au déménagement tout simplement des services d'archives, aussi parfois au soubresaut de l'histoire, aux guerres et autres. Bon,
c'est vrai que pas de mauvaises intentions, quoi.
Les documents disparus ont tendance à susciter plus d'intérêt que les documents que l'on retrouve, mais ils sont très très peu nombreux, les documents qui manquent, et on peut en avoir une idée en allant consulter d'autres services d'archives qui ont des copies.
Mmh, d'accord. Alors, Baudouin Échappas, je vous propose de prendre les événements dans l'ordre chronologique, mais avant tout, peut-être, brossez-nous le portrait de Lourdes dans cette moitié du 19e siècle.
Oui, alors Lourdes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est une ville qui a eu un passé prospère, qui a été une ville de première importance au Moyen-Âge. C'est une ville dont l'histoire remonte à l'Antiquité, qui est fondée probablement au tout début de l'ère chrétienne, mais dont on sait qu'elle était le site déjà d'un habitat dès la préhistoire. comme on l'évoquera sans doute plus tard, dans des grottes préhistoriques qui ont été fouillées par des archéologues. Donc Lourdes, au XIXe siècle, est une ville qui vient de traverser, après avoir connu des années très riches, très prospères, une grosse crise agricole. Et c'est vrai que ce petit village bigourdant de 4000 âmes a eu tendance à péricliter, à voir son étoile un peu pâlir. Et en 1858, donc, les 4000 habitants de cette petite ville vivent assez chichement. Les correspondances du préfet de l'époque montrent que les gens ne sont pas forcément très très fortunés, et surtout qu'il y a eu des gros problèmes d'alimentation pendant l'hiver 1856-1857. On a presque crié famine à Lourdes.
Oui, vraiment. Il y avait une partie de la population qui, disons-le tout net, vivait franchement dans la misère.
Oui, c'est une société presque d'ancien régime. On a beau être après la Révolution, on est vraiment dans ces villes de la France profonde, hein, il y en a plein en France, où à côté d'une classe aisée de notables, hein, il y en a un certain nombre à Lourdes, vivent des gens qui sont très précaires. Ce sont les brassiers, des gens qui vendent leurs services, leurs bras, comme leur nom l'indique, au jour le jour, et c'est le cas du papa de Bernadette Soubirous.
Alors justement, parlez-nous de cette petite Bernadette Soubirous, et surtout de sa famille. Elle vivait dans une misère noire au tout début.
Alors, c'est une famille modeste, très modeste. Le papa était meunier, la maman élève 4 enfants, il y a eu plusieurs enfants qui sont morts dans très bas âge. Bernadette a donc 14 ans en 1858. Ils ont été contraints de déménager 4 ans auparavant du moulin où ils habitaient, parce qu'ils ne pouvaient même plus payer le loyer. Un cousin leur a proposé de se loger dans ce qui est alors l'ancien cachot de la ville, et ils vivent dans des conditions à la fois sanitaires et de fortune qui sont misérables. Beaucoup d'ailleurs de catholiques viennent faire pèlerinage dans le cachot qui est situé donc au cœur de la ville.
On peut dire qu'ils étaient vraiment au plus bas de l'échelle sociale à cette époque-là.
Aujourd'hui, on dirait qu'ils étaient quasiment SDF, oui.
Ouais. Alors, décrivez-nous un petit peu cette famille. De qui était-elle composée? Les caractères, peut-être du père, de la mère, qui, on va le voir, ont une certaine importance pour la suite des événements.
Alors, c'est une famille. On ne s'est pas trop penché sur la famille dans le livre, mais c'est une famille, donc comme je vous le dis, très modeste. Ce sont des gens qui, du fait de leur position sociale, ne sont pas très considérés dans la ville. Le père de Bernadette Soubirous, à un moment, a été accusé de vol, par exemple. Il y avait quelque chose qui avait disparu. Évidemment, les soupçons de la police se sont portés sur ces gens misérables qui vivaient dans des conditions, en plus dans une prison. Alors, vous voyez, si ils vivaient dans une prison, dans l'imaginaire collectif, les gens se disaient « bon, s'il y a quelque chose ». Donc le père a été lavé de tout soupçon, mais on retrouve dans les archives quand même ces correspondances administratives qui montrent qu'on fait peser des soupçons sur lui. La petite Bernadette est obligée de travailler pour aider sa famille. Elle a 14 ans, mais elle travaille depuis plusieurs années. Elle a été bergère. Elle est aussi, et c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai découvert, serveuse dans un café, dans un petit bistrot qui appartient à sa tante. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais cité dans l'histoire officielle, j'allais dire, de l'Église catholique.
Et une fratrie autour d'elle?
Alors, elle a donc trois sœurs, trois frères et sœurs. Ce sont des personnes qui ne sont pas extrêmement catholiques, enfin, ils sont normalement catholiques. Elle est en train de faire sa première communion, donc elle va suivre des cours de catéchisme le jeudi à l'hospice école des sœurs de Nevers, qui est installée au nord de la ville. Pour le portrait de la famille, c'est à peu près ce qu'on peut en dire.
Alors, Bernadette Soubirous a eu sa première vision un 11 février, ce qui explique les célébrations, évidemment, de cette année. Nous sommes en 1858. Racontez-nous dans quelles circonstances.
Alors, nous sommes le 11 février 1858, en fin de matinée. Bernadette est avec quelques amis. Elle descend le long d'une sorte de petit torrent, là-bas on dit un gave, pour ramasser des ossements. Alors pourquoi des ossements? Tout simplement parce qu'elle revend ses os qu'elle trouve dans le gave où on jette les carcasses des animaux morts, donc une fois que on veut s'en débarrasser, pour les revendre donc à des marchands de couleurs qui, à partir de ces ossements, font des pigments noirs.
Ouais.
Ils brûlent ces ossements et ils font ensuite une sorte d'encre qui est utilisée par les peintres et les dessinateurs. On appelle ça le noir de... Et donc, elle descend, elle veut ramasser ses ossements, et non pas du bois comme le prétend la légende officielle.
Ouais.
Et ses amis traversent ce petit torrent, et elle se retrouve au bord d'une grotte, la grotte de Massabiel. Quelque chose attire son attention. Ce quelque chose, elle le désignera dans les interrogatoires de police sous le mot bigourdant d'Aquero, qui veut dire cela, quelque chose qui, en l'état actuel des choses, ce 11 février, est plus proche d'une lueur blanche que d'un personnage féminin.
Mmh, ouais. Et ça a été tout de suite, je veux dire, quelque chose d'important ou plutôt quelque chose de d'étrange, mais sans plus.
C'est quelque chose qui la saisit. Elle explique qu'elle tombe à genoux, qu'elle se signe. Dans un premier temps, elle ne sait pas si c'est une apparition plutôt maligne ou plutôt divine. C'est une grotte, il faut considérer que c'est une grotte sur laquelle beaucoup de légendes circulent depuis le Moyen-Âge. C'est un endroit où la population ne descend pas volontiers. Ces légendes sont souvent sombres, on prétend que des fées, voire des sorcières, habitent dans ce coin. Donc, la petite Bernadette est probablement influencée aussi par ces récits, et au moment où elle voit cette chose, elle ne sait pas encore ce que c'est, et elle peut imaginer, enfin c'est ce qu'elle expliquera par la suite, elle peut se demander si c'est une manifestation du diable ou d'une divinité.
Ouais, ouais. Et alors, l'intérêt de votre livre, entre autres, c'est que l'on peut lire, par exemple, la première déclaration faite par Bernadette Soubirous à la police que vous avez retrouvée. Et là, on y apprend plein de choses, et notamment, évidemment, pour cette époque-là, c'est vrai que c'était très courant. Bernadette Soubirous, donc, ne savait ni lire ni écrire, et elle raconte justement ce qu'elle a vu. On voit donc, on le vit presque de l'intérieur.
Oui, l'objet de notre livre, c'était vraiment de revenir aux sources. Vous l'avez dit, le sous-titre, c'est aux sources des miracles, c'est aussi aux sources du mystère.
Ouais.
On voulait vraiment revenir aux textes. Et ces premiers textes, les premiers qui évoquent cette apparition, ces apparitions, ce sont d'abord les journalistes comme vous.
Mmh.
C'est donc d'abord un article paru dans la presse locale, le Lavedan.
Ouais.
Mais immédiatement après cet article, c'est la police. La police, en la personne du commissaire Dominique Jacomet, qui est originaire de la région, il est né à Argelès, juste à côté, et qui, à l'époque, a 36 ans, et qui reçoit la petite Bernadette, parce qu'il a bien conscience que ce que raconte cette jeune femme est de nature à troubler la paix.
L'ordre public.
L'ordre public, parce que dès le lendemain, des gens vont commencer à affluer vers cette grotte, et vous le savez aussi, dès le mois de février, des milliers de personnes vont se grouper devant cette cavité rocheuse, en attendant que se manifeste de nouvelles apparitions.
Mmh. Et alors, vous avez ça m'intrigue. Il y a des annotations que vous avez retrouvées qui ne sont pas sur la version finale. Des annotations du commissaire.
Oui. Alors, il faut qu'on aussi imaginer la machine à écrire, c'est tout bête, mais elle n'existe pas.
Oui, c'est vrai.
Hein, on est en 1858.
Ouais.
Tous les rapports administratifs sont écrits à la main. Et ils sont écrits en plusieurs versions. Il y a des brouillons et il y a des versions finales au propre.
Ouais.
Dans notre souci de toujours revenir aux sources, nous avons consulté évidemment les brouillons. Et sur certains de ces brouillons, en tout cas sur le brouillon de l'interrogatoire de police que le commissaire Jacomet a réalisé le 21 février 1858, figure une mention qui n'a pas été portée sur la version finale, où finalement on voit Dominique Jacomet penser à haute voix. Et dire qu'il a donné des conseils à Bernadette Soubirous et il lui a demandé de ne plus continuer ses visites à la grotte. D'une certaine manière, il est un petit peu sorti de son rôle d'officier de police, en ce sens que il était chargé d'abord de recueillir le témoignage de cet enfant. Et là, il lui demande de ne plus y retourner.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas porté cette mention sur la version finale de son rapport, parce qu'il pensait être peut-être sorti de son rôle.
Mmh. Et dans cette mention, il lui dit de ne plus y retourner parce que bon, il lui dit c'est une hallucination, ça arrive, etc. Bon, très bien. Il note aussi. Alors là, c'est une autre écriture. Vous signalez, est-ce le greffier qui l'a rajouté ou Mais en tout cas, elle dit Bernadette Soubirous en pleurant à chaudes larmes, je vous demande une grâce. Papa et maman sont de l'autre côté. Il faut que vous leur défendiez de me forcer à aller à la grotte. J'en suis fatigué, je ne veux plus y aller.
Oui, c'est l'unique moment où...
C'est très lourd de sens et peut-être de conséquences, cette phrase, quand même.
Alors, c'est vrai que c'est pour cela qu'on a été très, très prudent et qu'on a souligné le fait que l'écriture et l'encre changeaient à ce moment-là, parce que ce passage laisse entendre, finalement, que cet enfant est manipulé par ses parents qui lui demanderaient de se rendre, donc, à Massabielle.
Ouais.
Encore une fois... Il n'est pas dit, enfin Bernadette Soubirous par la suite a toujours nié le fait que ses parents l'avaient forcé et elle a toujours déclaré que Dominique Jacomet avait déformé certains de ses propos. Alors nous ne tranchons pas, nous nous contentons de transmettre à nos lecteurs cette information. S'agit-il vraiment d'un premier témoignage porté cette fois-ci par le greffier ? Nous sommes obligés de constater que l'écriture et l'encre ne sont pas la même.
Oui.
Toutes les hypothèses restent aujourd'hui ouvertes, et selon que l'on est croyant ou que l'on n'est pas croyant, c'est vrai qu'on lit totalement différemment certains de ces documents.
Oui, et nous y reviendrons, évidemment, je vous demanderai votre intime conviction, après avoir fait cette enquête en détail, tout à fait à la fin de l'émission. Baudouin et Chapaz, pardon, une petite pause, et on se retrouve dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio pour continuer à suivre avec vous le déroulement de la naissance de ces apparitions de la Vierge à Lourdes. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Les archives secrètes de Lourdes parues aux éditions privées. Deux journalistes ont enquêté très longuement pour nous livrer finalement le fruit de leur travail avec énormément de documents inédits pour quelques-uns, rares à consulter pour la plupart. Baudouin et Chapaz et Jean Omnès, ce sont les deux auteurs de ce livre. Et Baudouin et Chapaz est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Baudouin et Chapaz, après cette première vision du 11 février 1858 par la petite Bernadette Soubirous, 14 ans à cette époque-là, donc nous sommes à Lourdes, les choses s'emballent ensuite très rapidement, étonnamment rapidement.
Oui, déjà les visions se multiplient. Sa première vision a eu lieu le 11, d'autres visions vont suivre le 14 et le 18 février.
Ouais.
Et comme ces apparitions ont lieu souvent le jeudi, enfin le 11 tombe un jeudi, le 18 aussi, et que c'est jour de marché,
en plus,
la nouvelle se propage extrêmement vite. Elle se propage d'autant plus vite que dans la région, il y a eu déjà beaucoup de phénomènes semblables. Quand je dis beaucoup, il faut être quand même relativiser. À 40 km de Lourdes, à une cinquantaine de kilomètres plutôt, à Montoussé, quelques années auparavant, il y a eu une série d'apparitions. Au Moyen-Âge, à 60 km de là, à Bétaram, il y a eu également des apparitions. Les habitants sont familiers de ce genre de manifestations et la nouvelle va vite gagner Tarbes, la grande ville voisine, d'où des calèches, des voitures à cheval vont converger vers Massabielle.
Est-ce que on peut pas faire quand même un parallèle sans vouloir me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire en plus dans cette émission. Ces apparitions ont lieu jeudi, jour de marché, donc jour d'affluence. En termes de marketing, comme l'on dirait aujourd'hui, c'est très bien vu. Voyez, il y a quand même toujours des éléments assez étonnant.
Alors, il y a des coïncidences.
Pour ne pas dire suspicieux, mais étonnant.
Il y a des coïncidences heureuses. Là-dessus, il ne faudrait pas penser que toutes les apparitions ont lieu le jeudi.
Oui,
par exemple, celle du 14 février n'est pas un jeudi. Donc, c'est vrai qu'il y a des éléments qui favorisent la propagation de la nouvelle.
Bien sûr.
Il faut aussi considérer qu'il y a donc beaucoup d'autres apparitions qui n'ont pas eu le même succès. C'est peut-être parce que ces apparitions sont intervenues dans ce contexte qu'elles ont eu autant de retentissement. Mais il faut considérer aussi qu'il y a d'autres villes où il y a eu des apparitions qui n'ont pas eu lieu les jours de marché et qui sont restées donc plus modestes en termes de développement du sanctuaire.
Ouais. Le journaliste donc du Le Lavedan suit l'affaire de très près évidemment, et à travers lui on découvre comment est-ce que cela se passait exactement. Elle avait une sorte de rituel, Bernadette Soubirous, lorsque l'événement ou le phénomène se produisait.
Oui, bah le rituel est chaque fois le même. On est souvent le matin. La jeune femme arrive, elle garde le silence, elle s'agenouille, elle est souvent porteuse d'un chapelet, chapelet qu'elle avait acheté quelques années auparavant justement au sanctuaire de Betharam que nous venons d'évoquer. Elle porte le regard sur une petite niche rocheuse qui est située en haut à droite de la grotte et où a été installée en 1864 une statue représentant son apparition, statue dont elle dira d'ailleurs qu'elle ne ressemble absolument pas à la jeune femme qu'elle avait aperçue pendant ses apparitions. Et c'est vrai que les gens font silence autour d'elle, se recueillent. De temps à autre, Bernadette est prise de soubresauts, les yeux fermés ou les yeux ouverts, en tout cas elle semble atteinte d'une forme d'extase. Tous les observateurs montrent qu'elle rit, qu'elle sourit, qu'elle a des inclinations du corps, enfin toutes les descriptions, à défaut de pouvoir décrire, si vous voulez, les apparitions, parce que Bernadette est la seule à les voir, les gens décrivent de manière très fouillée la manière dont elle se comporte, et c'est ce qui est tout à fait touchant d'ailleurs dans les documents que nous publions.
Alors, attendons-nous juste quelques instants, parce qu'on reviendra sur un rapport qui a été livré par trois médecins, un peu plus tard, à qui on a demandé d'examiner Bernadette Soubirous. Le journaliste dit, ses lèvres remuent comme si elle parlait, elle a ri aussi, mais d'un rire bref, brisé, nerveux. Ça fait penser quand même à une sorte de mini crise de nerfs ou quelque chose d'approchant en tout cas.
Alors, sur les lèvres qui bougent, ça peut être aussi une forme de récitation de prière ou de discussion intérieure. Bon, sur le rire nerveux, encore une fois, notre démarche n'est pas du tout
de porter un jugement.
Je vous dirais pas en conclusion ce que je pense du phénomène, mais je suis très respectueux des fidèles de croyants qui vont à Massabielle et je n'entends pas leur dire c'est n'importe quoi, c'est une légende totalement infondée. Bon, je suis obligé de constater les faits parce que c'est notre démarche, une démarche historique, et nous décrivons les choses au plus près. Elle rit. L'interprétation de ce rire peut être diverse. Certains diront effectivement, comme vous le dites, le mot nerveux le laisse entendre que ça peut être une forme entre guillemets d'hystérie, mais ce mot va énormément choquer les fidèles et ne reflète pas la réalité décrite par les documents que nous publions.
Alors, en ce qui concerne la gendarmerie, elle s'en mêle très rapidement parce que, comme vous le disiez au préalable, là il y a danger de perturbation de l'ordre public. Or, étonnamment, tout se passe très calmement.
Oui. Là, c'est l'autre chose qui nous a surprise, Jean Omnès et moi, c'est à quel point l'administration de l'époque avait pris au sérieux ces événements. Moi, au départ, je pensais naïvement que l'État allait ignorer dans un premier temps, puis tenter de lutter contre l'Église catholique, qui à l'époque est une forme de pouvoir assez puissant. Ce que je remarque, c'est que les fonctionnaires de police et de gendarmerie lourdais font tout pour empêcher qu'il y ait des accidents. Revenons en arrière. Imaginons une grotte qui aujourd'hui est aménagée avec une esplanade devant, des escaliers, des rampes d'accès pour les handicapés. Il faut bien se mettre en tête qu'à l'époque, ce sont des rochers escarpés, dangereux, coupants. On peut tomber dans le gave, le chemin est extrêmement étroit, quand il pleut c'est glissant, la police et la gendarmerie, leur première hantise, c'est qu'il y ait des accidents. Et donc ils vont essayer d'endiguer le flot de pèlerins, et ils vont s'affoler un petit peu justement devant la foule qui converge vers Massabielle.
Ouais. Et on peut citer un chiffre, parce que vous citez des chiffres évidemment au fur et à mesure que la nouvelle se répand. Le 2 mars par exemple, plus de 1500 personnes viennent assister aux apparitions. Évidemment, il n'y a que la voyante, comme on la qualifie dans ces cas-là, Bernadette Soubirous, qui voit quelque chose, et les autres personnes ne voient rien, mais 1500 personnes, c'est énorme pour cette époque.
Oui, surtout si l'on compare ce chiffre à la population totale de Lourdes, qui, selon les recensements de l'époque, ne dépasse pas 4000 habitants.
Effectivement. Alors, dès le départ, quand même, la gendarmerie, les autorités sont extrêmement suspicieuses, et l'Église également très suspicieuse à l'égard de Bernadette Soubirous.
Oui, là aussi, surprise, lorsqu'on lit les documents d'archives que nous publions donc dans ces archives secrètes, les apparitions, qui sont d'abord très nombreuses à travers le monde, puisqu'il y a 21 000 cas d'apparitions recensés à travers le monde, ne sont pas considérées avec faveur par l'Église catholique. L'Église, avant de les valider, fait une longue enquête épiscopale, qui, comme son nom l'indique, est confiée par l'évêque à des envoyés spéciaux qui sont chargés d'interroger les visionnaires. Et dans le cas de Bernadette, c'est la même chose. Entre 1858 et 1862, donc durant 4 années, trois envoyés spéciaux de l'évêque vont l'interroger à intervalles réguliers pour voir si la version des faits qu'elle livre est convergente ou si elle varie au fil du temps. Alors, les autorités administratives, elles, sont aussi suspicieuses. Là, ça semble plus logique puisque elles sont laïques. Et le maire, notamment de l'époque, qui s'appelle Anselme Lacadet, va demander une expertise psychiatrique de Bernadette pour savoir si elle est atteinte de crise de folie ou si elle est saine de corps et d'esprit. Et nous publions le rapport que les médecins Balancy, Lacran et Pérusse rendent au conseil municipal le 31 mars.
Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure sur ce rapport qui est très intéressant. Mais parlons plutôt, continuons à suivre la chronologie des choses. Donc le 2 mars, plus de 1500 personnes viennent assister aux apparitions. La pression ne cesse de monter. Et on imagine d'ailleurs que la pression qui devait peser sur les épaules de cette frêle petite fille, finalement, de 14 ans, une pression de plus en plus énorme et qui s'accroît car le jeudi 4 mars, il doit se produire un événement extraordinaire.
Oui, la première apparition lui a indiqué que il y avait des rendez-vous important. Oui. Et notamment, au terme d'une quinzaine, on lui a prédit, cette vision lui a prédit qu'elle lui délivrerait un message de toute première importance, et tout est censé se dénouer, en ce 4 mars. Donc la rumeur, on l'imagine, court dans la foule, la masse de fidèles, mais aussi de curieux, parce qu'il y a des gens qui viennent simplement par curiosité, considérable. La petite Bernadette est quasiment harcelée. Il faut imaginer aussi qu'il y a un emballement médiatique. Alors, il n'y a pas encore la radio ni la télévision, mais la presse écrite, tous les journaux locaux sont présents. Il y a des envoyés spéciaux depuis Paris. Il y a même des représentants de médias étrangers. Ouais. La chose a pris une ampleur complètement inattendue et franchement saisissante quand on relit les documents.
Ouais. Et alors, que se passe-t-il ce 4 mars précisément ?
Alors, ce 4 mars, les gens sont un petit peu déçus, puisque la foule se presse dès 6h30 et elle espérait que la visionnaire arriverait vers 7h. Bon, elle n'apparaît que vers 7h15 et cette attente même d'un quart d'heure semble très très longue à la foule de pèlerins. Elle s'agenouille devant la grotte, à l'entrée principale, à environ 10 mètres du mur. Elle allume un cierge, elle fait le signe de croix, elle récite son chapelet, et puis ses yeux, comme d'habitude, se portent fixement sur l'ouverture supérieure qui correspond aux cavités intérieures de Massabielle. Et là, elle va réciter deux fois son chapelet. Ça va durer une demi-heure. Elle va se relever, toujours le cierge à la main. Elle va gravir l'espace qui la sépare de la sortie et finalement elle va à nouveau s'agenouiller. Enfin, tout cela va prendre beaucoup de temps, puis elle va partir sans dire un mot. Et là, beaucoup de gens vont être extrêmement déçus parce que tout ça pour ça, disent-ils, juste voir une enfant s'agenouiller, marmonner dans sa barbe quelque chose. Et et repartir, beaucoup de gens vont être déçus. Certains vont dire qu'ils vont attendre, certains vont vouloir d'ailleurs se presser devant son domicile, mais elle ne fera pas de révélation ce jour-là de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a entendu.
Ouais.
Il faudra attendre quelques jours.
Mmh. Et alors, revenons sur le rôle des parents qui, là, l'encadrent, parce que, je le disais encore, la pression est énorme. Comment se comporte-t-il durant toute cette période ?
Alors, au départ, ils sont absents de la grotte puisque l'enfant descend seul.
Voilà,
Bernadette descend d'abord donc totalement seule, enfin avec des amis, mais ses amis ne savent pas qu'elle a vu quelque chose. Elle ne leur dit pas tout de suite d'ailleurs, elle leur dira quelques jours plus tard. Puis par la suite, elle descend avec des gens extérieurs, des personnes extérieures de sa famille. Les parents de Bernadette ne vont commencer à s'intéresser, entre guillemets, à ce qui se passe qu'assez tardivement, et d'une certaine manière, à ce moment-là, ils vont jouer les services d'ordre. Mmh. Ils vont essayer de protéger, en réalité, leur enfant, qu'ils voient harcelé par des gens qui sont, pour le coup, on peut le dire, là, parfois hystériques. Hein. Mmh. Il y a des gens qui veulent absolument toucher Bernadette. Il faut imaginer cette foule qui s'agrippe à elle, qui veut toucher ses cheveux, qui veut la voir quasiment bénir des objets. Les gens la considèrent déjà comme, alors elle n'est pas encore sainte, mais comme une personne, oui, une sainte personne.
Oui, oui, tout à fait. Une pause encore, Baudouin et Chappaz, et ensuite nous allons continuer à découvrir comment est-ce que cette affaire va prendre des proportions absolument extraordinaires. D'ailleurs, vous avez intitulé un de vos chapitres « Le temps des miracles ». On m'a dit que, vous savez, quand une rumeur comme ça se met à enfler et à parcourir les rues et les ruelles de Lourdes, ça donne des choses parfois tout à fait extravagantes, des choses intéressantes, qui questionne en tout cas. On va y revenir dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Les archives secrètes de Lourdes avec un des deux auteurs, Baudouin et Chappaz, qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le second auteur étant Jean Omnès. Alors, Baudouin et Chappaz, les apparitions continuent. Ça a commencé, on l'a dit, le 11 février 1858. Là, on est carrément à la mi-mars. Les apparitions se déroulent à quel rythme ? À quel rythme est-ce que Bernadette Soubirousse se rend à cette grotte de Massabielle pour y retrouver cette apparition?
C'est très irrégulier. Entre le 11 février et le 16 juillet, date de la dernière apparition, il va y avoir 18 rendez-vous, entre guillemets. C'est vrai qu'à partir de la mi-mars, les visites de Bernadette Soubirousse à la grotte s'espacent dans le temps. Ça culmine, vous l'évoquiez à l'instant, le 4 mars, parce que ce 4 mars coïncide avec une date que l'apparition lui avait indiquée comme un moment clé où elle lui délivrerait un message. Les choses semblent se calmer en ce début du mois de mars. Les rapports du commissaire de police au préfet montrent que les gens sont toujours aussi nombreux, mais que Bernadette ne pointe pas le bout de son nez. Et c'est assez drôle d'imaginer qu'à l'époque, le maire pense que si Bernadette ne retourne pas sur les lieux, les gens vont se lasser et finalement se rendre à Massabielle.
Et c'est ce qu'il veut d'ailleurs, clairement, au départ.
C'est ce qu'il aimerait bien, parce que c'est vrai que ça lui cause quand même beaucoup de tracas. Il dort peu, il est très inquiet. Il voit des gens inconnus venir dans sa commune, ça provoque vraiment des angoisses. Ça piétine d'abord les champs, il faut penser très tranquillement aussi aux paysans qui sont de l'autre côté du Gave et qui voient leur récolte totalement piétinée par les fidèles, et ça commence à donc énerver certains Lourdais.
Alors, Baudouin et Chappaz, parlons maintenant de la description et de l'évolution dans les rapports entre l'apparition et Bernadette Soubirousse. Il y a eu une évolution jusqu'à ce que Bernadette Soubirousse donne également la description précise de cette dame qu'elle voyait.
Oui, alors les choses sont très graduelles. Au départ, vous l'avez compris, il s'agit d'une d'une lueur, d'une lumière, quelque chose qui est très difficile.
Un halo blanc qui avait l'air.
Voilà.
De... Ouais.
Quelque chose que la petite Bernadette a bien du mal à dénommer et pour lequel elle utilise encore une fois ce mot d'Akiro qui est un mot qui dit cela, quelque chose, et qui prête à toutes les interprétations possibles. À partir du 25, du 18 février, les choses vont s'affiner, la vision va s'affiner. Ça va être d'abord une femme de petite taille. Elle va décrire quelqu'un qui est sensiblement plus petite qu'elle. L'enfant Bernadette Soubirous mesure 1m40, donc vous imaginez que l'apparition est vraiment de taille réduite. Puis les choses vont s'affiner encore à partir du 25 février, et ça va finalement être l'Immaculée Conception, selon ses propres termes, ce qui conduira l'Église catholique à affirmer qu'il s'agit de la Vierge. Mais au départ, il faut vraiment insister sur ce point, Bernadette Soubirous ne dit pas que c'est la Vierge, elle n'affine sa vision qu'au fur et à mesure que passe le temps.
Et alors, décrivez-nous un petit peu cette vision qu'elle a, petite femme avec un voile blanc, avec un chapelet, avec des petits cœurs d'ailleurs.
Alors, c'est vrai que la vision convoque toutes les images traditionnelles que l'on prête au personnage de la Vierge, à savoir donc un voile blanc, puis aussi ce bleu qui d'ailleurs est représenté sur la statue que l'artiste Fabiche lui a consacrée. Elle a effectivement ce chapelet, elle a des petites chausses jaunes avec
des roses dessus.
Et c'est vrai que cette image est à la fois entre guillemets naïve et donc elle prête à beaucoup de moqueries de la part des gens qui ne croient pas, et elle est aussi très conforme à l'image que l'Église catholique véhicule à l'époque de la Vierge. C'est la représentation classique, je dirais,
de
la statuaire qu'on retrouve dans les églises catholiques très nombreuses dans la région de Lourdes, et qui sont pour la plupart, il faut là aussi pointer cela, dédiées à la Vierge. Le culte marial dans la région de Lourdes est très ancien. On a découvert dans les documents avec Jean Omnès qu'il remontait, on pouvait le dater précisément au 8e, 9e siècle. Il y a une légende à l'époque qui met en scène Charlemagne et qui donc raconte que la ville de Lourdes est placée sous la protection de la Vierge. Il y a un certain nombre de lieux de culte qui sont dédiés à Notre-Dame et le culte vraiment de la mère de Jésus est très très important dans la vallée du Lavedan.
Avant de passer au temps des miracles, parlez-nous de l'abbé Peyramale, qui est le curé de Lourdes et qui lui est en première loge pour le coup.
L'abbé Peyramale donc est le curé de Lourdes. Il y en a plusieurs. Il y a aussi l'abbé Pomian qui est le confesseur de la petite Bernadette. Mais le curé Peyramale, l'abbé Peyramale, est très embêté par ce qui arrive. Là, c'est à nouveau une surprise dans les archives. Je pensais que cet homme pourrait se réjouir que sa ville fasse l'objet comme ça
d'une apparition mariale, au contraire.
D'une apparition. Il est très embêté et il l'explique à son frère dans une série de correspondances que nous publions et qui dévoile des liens fraternels très très chaleureux entre les deux hommes. Et il lui confie son embarras et ça et vraiment ses doutes. Comment faut-il faire toute chose qu'il ne peut pas confier à Monseigneur Laurence, son évêque, qui est son supérieur hiérarchique et avec lequel il entretient une correspondance, mais plus neutre et plus, on va dire, administrative.
Oui, quasiment. Oui, tout à fait. Et alors, parlons maintenant donc de ce que je vous disais, le temps des miracles. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment.
C'est vrai que la population est dans l'attente de quelque chose. Jusque-là, il faut vraiment, vraiment se mettre en tête que seule Bernadette a vu la Vierge. Donc les fidèles qui l'entourent, ils la croient pour certains sur parole, d'autres doutent, mais la foule est dans l'attente vraiment d'un miracle qui pourrait confirmer les prodiges qui se sont déroulés selon les dires de Bernadette Soubirous. Alors plusieurs histoires se mettent à circuler dans la population et toutes rapportent que des choses surnaturelles se produisent à Massabielle. Alors, ces choses surnaturelles, ce sont évidemment dans un premier temps des signes. On raconte par exemple qu'une colombe a plané au-dessus de la grotte, est venue se poser sur à l'emplacement de l'apparition, puis a touché le front de la petite Bernadette. On prétend que revenant de la grotte, Bernadette Soubirous a touché, embrassé une jeune aveugle qui donc du coup s'est remise à voir. Et tous ces événements sont souvent des déformations, de choses qui sont réellement arrivées, mais qui ont été magnifiées d'une certaine manière par la rumeur. Parce que c'est vrai que c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu le loup. C'est à chaque fois que quelqu'un répète le récit initial, il ne peut s'empêcher d'ajouter du merveilleux.
Oui.
Et même les fonctionnaires de police, même les gendarmes, les plus laïcs à l'époque, quand ils, et c'est pour ça que ce livre aussi nous a beaucoup amusé, quand ils reproduisent les rapports administratifs, ils recopient le plus scrupuleusement possible les déclarations initiales, mais de temps en temps, il y a un petit ajout. Et on le pointe dans notre livre, ce petit ajout, ces petits ajouts mis bout à bout construisent une véritable légende qui perdure aujourd'hui.
Ouais. Et alors, il y a énormément de rumeurs qui courent, dont certaines ont été enquêtées quand même par la police sur des cas de guérison. Et il faut bien le dire, à chaque fois, le rapport était mi-figue, mi-raisin. Il n'y avait pas constatation flagrante de miracle ou de... surtout nous, avec la connaissance que l'on a de la science et le recul, évidemment, avec le temps, on peut se dire que c'est ces premières guérisons, pour le moins, qui ont entouré ces apparitions de Bernadette Soubirous, ne tiennent pas forcément du miracle.
Alors, je ne serais pas aussi catégorique.
Sans dénigrer, hein,
oui, non, je ne serais pas aussi catégorique que vous. Il y en a certaines qui ne sont effectivement pas retenues, pas validées. Je parle donc de cette jeune femme qui s'appelle Troy. Je ne sais pas si on dit Troy ou Troy dans la région. Mais cette jeune femme qui était donc non voyante ou malvoyante selon les versions et dont on dit qu'elle aurait recouvré la vue après avoir été touchée et embrassée par Bernadette. C'est vrai que ce cas n'est pas validé comme un miracle authentique. L'Église catholique a enquêté aussi, la police, il semblerait qu'on soit dans plus une légende qu'autre chose. Mais il y a néanmoins, dès 1858, un certain nombre de cas de guérison. Les médecins, notamment le docteur Dosus, va en relever un certain nombre. Alors la personnalité de ce docteur a prêté aussi à beaucoup de polémiques, puisque c'est un personnage complexe, ce docteur. Mais bon, 7 cas de guérison vont néanmoins être validés comme miraculeuses par l'Église catholique en cette année 1858, et donneront lieu d'ailleurs à un mandement, comme on appelle le document officiel de l'évêque, un mandement qui contribuera en 1862 à faire de Lourdes une ville sanctuaire.
Oui, oui, une ville mariale, vraiment. Et alors, une chose que l'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, qui est pourtant élément essentiel du pèlerinage à Lourdes actuellement, il y a la grotte, bien entendu, mais à côté de la grotte, il y avait et il y a toujours une source qui coulait.
Oui, alors cette source, à l'époque, ne coulait pas, d'après les récits qui sont faits et que nous avons retrouvés encore une fois dans ces archives, ce serait Bernadette Soubirous qui aurait donc creusé avec sa main la terre et qui aurait mis à jour cette source. Ce qui est sûr, c'est que de nombreuses sources sont connues dans la ville depuis la plus haute antiquité. On a retrouvé un certain nombre de ruines de temples romains qui montrent que la plupart de ces sources étaient d'ailleurs placées sous la protection de divinités bien connues des spécialistes du monde latin, et donc qui montrent aussi qu'il y avait à la fois donc des sources auxquelles on prêtait des vertus déjà thérapeutiques à l'Antiquité à Lourdes.
Et vous publiez d'ailleurs, ces sources ont été scrupuleusement analysées.
Alors, toujours l'esprit cartésien, l'esprit rationnel français, on veut savoir, on veut comprendre, on veut expliquer ce qui se passe. Alors, si des gens disent qu'ils sont guéris après avoir bu de l'eau de Lourdes, on veut savoir ce qu'il y a dans cette eau. Il est possible, pourquoi pas, que cette eau ait des vertus effectivement thérapeutiques, curatives. Et Monsieur Lacadet, le maire de Lourdes, va demander à un chimiste, à un pharmacien d'une petite ville voisine, la ville de Trie, d'analyser cette eau. Alors, dans un premier temps, on va dire effectivement il y a des choses tout à fait étonnantes dans cette eau, des choses quasi miraculeuses qui permettent d'imaginer que nous sommes en présence d'une eau minérale vraiment extraordinaire. Et Anselme Lacadé se voit déjà créer sans doute une ville thermale à Lourdes.
Oui, oui, évidemment.
Et il se voit déjà, selon la rumeur, là pour le coup c'est une rumeur qui circule dans la ville, on lui prête la volonté d'ouvrir des établissements thermaux. Une deuxième série d'analyses va être confiée à un chimiste de Toulouse, et là le chimiste va être beaucoup plus prudent. Il va dire que l'eau est certes potable, mais elle n'a aucune valeur thérapeutique, et en tout cas elle ne peut en aucun cas être qualifiée d'eau minérale, et donc les espérances, si tant est qu'il en ait jamais eu, de M. Lacadé vont être réduites à néant.
Alors, il y a un point, un point qui n'est pas un détail, sur lequel quand même il faut s'attarder quelques instants, c'est le comportement de la foule. Donc, ces événements drainent énormément de personnes, on s'en doute, de plus en plus nombreuses, plusieurs milliers, et il n'y a jamais eu de problème notable. Il n'y a jamais eu de problème d'ordre public réellement, finalement.
Oui, la foule
est assez extraordinaire.
Est
quand même, là.
La foule est respectueuse. C'est vrai qu'aussi, quand on dit foule, à un moment, c'est 6-7 000 personnes. C'est pas, c'est déjà à aucun moment.
Ah, pour une ville de 4 000 personnes déjà.
Alors c'est vrai que non, mais ce qui est tout à fait incroyable, c'est que il n'y a surtout pas d'accident.
Oui.
Il n'y a pas d'accident. Personne ne tombe à l'eau, personne ne se blesse. En tout cas, on ne rapporte pas d'accident. S'il y en a eu, ils n'ont pas, ils ne sont pas passés dans la chronique. Donc cette foule se comporte de manière extrêmement sage, sans doute aussi parce que la police déploie un dispositif impressionnant. Hein. La gendarmerie va quasiment encadrer les flots de pèlerins. On décrit d'ailleurs les rapports administratifs qui conduisent le commandant Renaud de Tarbes à donner l'ordre à son lieutenant Bourriaud d'Argelès de mettre des gens sur le chemin à intervalles réguliers, en tenue réglementaire. Il décrit même le costume dans lequel ils seront habillés, et les chevaux qui devront être attelés à tel endroit tant d'hommes, à tel autre temps. On est face à une manifestation extrêmement encadrée, là encore pour des raisons d'ordre public.
Ouais. Nous allons faire une nouvelle pause, Baudouin et Chapasse, et dans quelques instants, on va examiner en détail le rapport des trois médecins dont on avait parlé il y a quelques instants, qui ont examiné Bernadette Soubirous, et nous allons prendre connaissance des conclusions, évidemment, qu'ils ont livrées, des conclusions pour le moins étonnantes, mais qui finalement laissent encore la place à ceux qui croient et ceux qui n'y croient, enfin, ou y croient peut-être un peu moins. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
À l'occasion de la célébration des 150 ans des apparitions mariales à Lourdes, première apparition, je vous le rappelle, a eu lieu le 11 février 1858, avec cette jeune femme qui est devenue maintenant célèbre dans le monde entier, Bernadette Soubirous. On parlera d'ailleurs de son corps que l'on peut voir encore en France, qui est conservé intact, imputrescible, qui est un signe également que l'Église reconnaît comme étant un signe de sainteté. Alors, Baudouin et Chapasse, les archives secrètes de Lourdes, donc aux éditions privées, vous publiez le rapport qui a été commandé par les officiels à trois médecins, leur demandant d'examiner de manière psychologique et psychiatrique Bernadette Soubirous.
Oui. Le maire, donc toujours le même, Anselme Lacadé, qui, bien que catholique, veut être irréprochable, demande à trois médecins, le 27 mars 1858, d'examiner la jeune Bernadette Soubirous. Les trois hommes s'exécutent, et ces médecins de réputation, de grande réputation localement, constatent que la Bernadette est malade. Elle va d'ailleurs mourir très jeune, hein. Il faut se rappeler qu'elle est morte à 35 ans.
Santé fragile quand même.
Elle avait une santé fragile. Alors, ce qu'il diagnostique, c'est une maladie respiratoire, enfin des problèmes asthmatiques. Ils disent que pour le reste, elle n'a jamais souffert de la tête, n'a point éprouvé de crise nerveuse, elle boit et mange et dort à merveille, mais elle n'est pas aussi, en aussi bonne santé qu'elle paraît le croire. Elle a donc de l'asthme, sa respiration est légèrement anxieuse et sifflante, disent-ils, et c'est quelque chose qui va vraiment attirer leur attention au point qu'ils vont émettre l'hypothèse qu'elle puisse de temps en temps, non pas perdre la raison, mais en tout cas être sujette à des hallucinations, bon, visuelles.
Mmh, ouais.
Ils sont extrêmement prudents. Ils ne prétendent pas que Bernadette Soubirou se raconte n'importe quoi. Ils expliquent juste que, à leur avis, il est possible qu'il y ait eu de temps en temps des hallucinations visuelles.
Mmh.
Alors, cette exaltation, ils parlent eux d'exaltation, ne leur paraît pas inquiétante. Ils ne demandent pas à ce qu'elle soit hospitalisée, ni qu'elle suive un traitement particulier. Ils pensent que ça va se tasser un petit peu avec le temps, et ils sont eux relativement confiants sur l'issue de ces visions. Ils pensent les choses rentreront dans l'ordre après quelques semaines.
Mmh. Mais enfin, ils soulignent le fait que quand même des fois Bernadette Soubirou a été prise de crises assez étonnantes, à tel point que elle tombe par terre, mord la poussière de manière tout à fait physique, mange de l'herbe également. Ce sont là des comportements pour le moins curieux.
Ce sont des comportements curieux qui sont rapportés par l'ensemble des observateurs qui assistent aux scènes et qui sont interprétés, là encore, très différemment selon que l'on est croyant ou selon que l'on est non-croyant.
Mmh.
Les croyants voient là des actes de contrition, le fait que elle obéit à l'apparition qui lui demande effectivement de manger de l'herbe ou de baiser le sol en signe d'humilité. D'autres y voient des manifestations, en effet, de délire et de quasi, entre guillemets, possession.
Ouais.
Ça, c'est tout à fait différent selon qu'on est catholique croyant ou selon qu'on est observateur totalement incroyant.
Et alors, des avis contradictoires, évidemment, voient le jour. Et là, j'aimerais que vous nous dressiez le portrait de quelqu'un qui a joué un rôle important dans cette affaire, le docteur Dozou.
Oui.
Qui lui alors s'est retourné complètement. Mais d'abord son portrait.
Alors ce docteur, c'est donc l'un des notables de la ville. C'est un docteur qui s'est longtemps occupé de l'hospice local, qui est en conflit avec la municipalité depuis qu'il a été, on dirait aujourd'hui, licencié. Les raisons de ce licenciement ne sont pas clairement établies aujourd'hui. Différentes versions circulent. Les rapports administratifs montrent en tout cas qu'il lui est reproché un certain nombre de comportements qui sont non conformes et qui ne permettent pas de continuer à travailler avec lui.
Mmh.
Donc cet homme qui au départ était extrêmement suspicieux face aux apparitions, qui donc est sans emploi, souligne ses détracteurs, va changer son fusil d'épaule et va devenir l'un des plus ardents défenseurs d'abord des apparitions, puis il va être l'un des avocats des miracles. C'est lui qui va par exemple constituer un certain nombre de dossiers. Et c'est sur la base de ces observations, de ces petits cahiers, que l'évêque de Tarbes va finalement déclarer qu'un certain nombre de ces guérisons extraordinaires sont de réels miracles.
Mmh. Et l'évêque de Tarbes, qui lui, au départ et assez longtemps, était farouchement contre.
Oui, alors même démarche que pour l'abbé Peyramale. On est face donc à une démarche très très classique dans l'Église. Au départ, les visionnaires sont considérés avec beaucoup de suspicion.
Oui, oui, oui.
Il y a donc beaucoup.
Ce qui est une démarche tout à fait saine de la part de l'Église.
Oui, oui, oui. Ils savent que il y a beaucoup de gens qui ont des expériences mystiques. Ils attendent de voir si d'abord ces manifestations se prolongent, si ensuite elles sont corroborées par des faits qui pourraient éventuellement relevé du miracle. Donc l'évêque qui entretient une correspondance avec le préfet, reçoit presque d'ailleurs des ordres du préfet pour éloigner Bernadette de Lourdes, compte tenu de l'agitation de la ville, va suivre les injonctions du préfet Massy et va effectivement demander à Bernadette de ne plus aller à la grotte. Et mieux, il va lui demander d'aller à Cotteray, qui est une ville à côté de Lourdes, pendant quelques jours pour se retirer, histoire que les choses se calment.
Ouais. Est-ce que la situation financière, la situation d'habitation de Bernadette Soubirous et de ses parents s'améliore tout de même de manière tangible durant ce laps de temps?
Alors, la première conséquence de ces apparitions, c'est qu'évidemment, cette famille qui donc ne faisait l'objet d'aucune attention de la part de la population devient au cœur de toutes les conversations, et c'est vrai, est considérée d'une autre manière. Alors, il y en a qui considèrent cette famille comme bénie des dieux, enfin, de Dieu, en l'occurrence, et d'autres qui disent que c'est simplement une famille de gens qui essayent de se faire remarquer. Toujours est-il, c'est que cette jeune femme, Bernadette, va être d'abord logée par une personne assez fortunée pendant quelques jours, une Madame Millet, qui va lui proposer de l'héberger pendant quelques jours, et c'est vrai que assez rapidement, après les apparitions, la famille va pouvoir se loger de manière plus décente. Voilà, mais bon, c'était difficile de les voir continuer à vivre dans un cachot, c'était totalement insalubre.
Oui, quand même, ne serait-ce que par charité chrétienne.
On peut imaginer que même s'il n'y avait pas eu les apparitions, ils auraient été relogés. Bon, c'est vrai que ça a accéléré un petit peu les choses, parce qu'il aurait été peut-être de mauvais goût de voir des gens qui sont cités dans les journaux. Enfin, ça donnait une mauvaise image, si vous voulez, de Lourdes, le fait qu'ils soient logés dans des conditions aussi précaires.
Et puis même par charité chrétienne. Enfin,
voilà. Alors là, les chrétiens donc de toute la France vont faire en sorte que la famille Soubirous vive mieux. Le commissaire de police relève néanmoins qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel.
Ça, c'est très important également.
De la famille, et donc on ne peut pas les soupçonner de faire ça avec des visées mercantiles. Contrairement à d'autres cas que nous citons par ailleurs, notamment je pense au cas d'une petite qui s'appelle Francine Baquet, qui est une visionnaire dans un petit village d'à côté, et qui, elle, clairement, va être démasquée comme une affabulatrice qui prétend voir la Sainte Famille pendant l'hiver 1858-1859, juste pour faire de l'argent. Car Bernadette Soubirous va être copiée. Elle va inspirer à un certain nombre de jeunes femmes des comportements similaires, et il va y avoir une épidémie de visionnaires en cette année 1858 et 1859. Beaucoup de jeunes femmes vont prétendre voir des choses, soit dans cette grotte, soit ailleurs. Ça aussi, ça va affoler beaucoup l'administration.
Ouais. Alors, Baudouin et Chappas, nous en arrivons au 16 juillet 1858. Et là, c'est la dernière apparition.
Oui, alors c'est une apparition qui n'a pas toujours été citée. Pendant longtemps, et c'est ce qui a pu expliquer que le nombre d'apparitions soit sujet à évolution, cette apparition n'a pas été comptabilisée. C'est donc la 18e apparition. Mais Bernadette, veut y aller à la grotte tranquillement, se déguise et se dissimule sous une capuche. Lorsqu'elle va aller à la grotte, elle ne va pas être reconnue. Il n'y aura d'ailleurs pas grand monde ce jour-là. Elle y va avec une amie. Et donc ce récit ne va être rapporté que par de très très rares personnes, notamment un certain monsieur Lasserre, sur la base du témoignage duquel nous rapportons ce qui s'est passé. Elle fait d'une certaine manière ses adieux à la grotte. Il semble qu'elle ait déjà pris à cette occasion la décision d'entrer dans les ordres. Elle va intégrer le rang donc des sœurs de Nevers, elle va se retirer du monde et elle va partir quelques années plus tard pour cette ville de Nevers. Elle ne reviendra jamais à Lourdes, elle mourra là-bas et son corps d'ailleurs est conservé dans ce couvent.
Là, c'était vraiment sa dernière visite à cette grotte.
Oui.
Jamais elle n'y reviendra.
C'est la toute dernière visite. Et elle se tient d'ailleurs à distance parce que, à ce moment-là de l'histoire, l'administration a réagi de manière très violente. La grotte est en train de se transformer en sanctuaire. Or, pour créer un sanctuaire, il faut une autorisation expresse de l'administration. Et cette autorisation n'a pas été donnée par le ministre des Cultes. Le ministre des Cultes qui voit, alors là pour le coup, d'un très mauvais œil, qu'on prenne des initiatives sans son autorisation, et donc qui s'appelle Gustave Roulant, et qui donne au préfet l'ordre de barricader la grotte, de mettre une sorte de mur, de le faire garder, des palissades vont être dressées devant cette grotte pour empêcher les fidèles d'y aller. ce qui n'empêchera pas les gens de se faufiler derrière les planches, déposer des offrandes. Mais donc la Bernadette ne peut pas se rendre à la grotte ce 16 juillet 1858. Elle est contrainte de prier au loin, devant, sur la pelouse qui est de l'autre côté du Gave.
Ah ouais. Et ça, on le sait moins, évidemment, puisqu'elle quitte Lourdes et ensuite part à Nevers, ce qui est très très loin.
C'est très loin, oui. À l'époque, c'est le bout du monde.
Ah, complètement. Mais que devient-elle après ?
Elle entre dans les ordres et là, vraiment, elle se retire. Elle entretient encore une correspondance avec un certain nombre de personnes qu'elle a croisées. Elle va écrire évidemment à sa famille, à l'abbé Peyramale. Elle va entretenir une longue correspondance. Elle va vivre cloîtrée jusqu'à sa mort, donc à l'âge de 35 ans, des suites de cette maladie pulmonaire qui avait été diagnostiquée quelques années auparavant par les trois médecins qui l'avaient ausculté.
Ouais.
On a peu de témoignages sur la vie qu'elle a menée ce couvent. On sait juste qu'elle y a appris à lire et à écrire, puisqu'elle a tenu un journal qui a été publié après sa mort, où elle revient sur l'ensemble des événements qui lui sont arrivés, et où elle décrit de manière très précise, pour le coup, la Vierge, puisqu'elle décrit une femme aux cheveux blonds, aux yeux bleus, enfin quelque chose, pour le coup, qui ne cadre pas tout à fait avec l'iconographie traditionnelle, mais bon, qui, d'une certaine manière, traduit quand même cette entre guillemets pureté mariale que évidemment les catholiques prêtent au personnage de la Vierge, mais bon, elle raconte ça à sa manière, les événements qu'elle a vécu. Elle revient sur les interrogatoires avec le commissaire Jacomet, c'est là qu'elle explique que le commissaire a déformé ses propos. Tous les acteurs de l'époque ont tendance à s'éloigner. Le commissaire Jacomet d'ailleurs est muté, il va quitter lui aussi Lourdes. Beaucoup de gens, à commencer par le maire, pensent que les apparitions passées, la ville va reconnaître un petit peu du calme, de la tranquillité. C'est avec beaucoup d'étonnement qu'il va commencer à voir affluer des pèlerins, des gens qui vont venir faire des offrandes à la grotte, que les autorités vont donc d'abord ramasser, puis confier au bureau de bienfaisance. Mandement va être donné par l'évêque et que le sanctuaire va réellement commencer à naître, la grotte va être vendue, la grotte qui appartient à la ville va être vendue à l'église.
On y reviendra justement à titre de conclusion pour cette partie de dossier, parce que j'aimerais que on s'intéresse également à toute la partie, la deuxième partie de ce roman, j'allais dire, tellement on le lit comme un roman finalement, avec des pièces d'archives que vous intercalez dans les textes. On parlera de toute la deuxième partie qui se consacre à l'origine de Lourdes et aux explorations de cette fameuse grotte, et là ça devient franchement très très intéressant. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Les archives secrètes de Lourdes, écrit par deux journalistes, Baudouin Echappas et Jean Omnès, est publié aux éditions privées. Évidemment, vous retrouverez les coordonnées de ce livre sur le site internet où vous allez pouvoir même télécharger cette émission, le site psiland.org, psiland.org. Il y aura d'ailleurs la couverture du livre que vous pourrez découvrir, et ensuite, bien entendu, toutes les références pour se le procurer. Baudouin Echappas, rapidement, la montée en puissance du sanctuaire. Lourdes est devenue, sans contestation possible, une des premières villes du monde en ce qui concerne le pèlerinage. Nous sommes d'accord actuellement.
Ah, complètement d'accord. Il y a 5 hauts lieux spirituels mondiaux. Il y a Rome pour les catholiques, Jérusalem pour les juifs, la Mecque pour les musulmans, Bénarès pour les hindouistes. Lourdes est la deuxième capitale de la spiritualité catholique au monde, mais il y a aussi d'autres religions qui vont à Lourdes, et les Lourdais voient de plus en plus d'hindouistes venir.
Des musulmans également.
Il y a également des musulmans qui viennent à la grotte. Donc oui, c'est un des hauts lieux spirituels mondiaux, et quand vous dites Lourdes, quel que soit le point de la planète, on sait où c'est, ou en tout cas on sait de quoi on parle.
Oui.
Il y a même des répliques de la grotte de Lourdes dans un certain nombre de lieux. Il y a une réplique de la grotte à Rome, au Vatican.
Ouais.
Il y a une réplique au Canada, il y a même une ville qui s'appelle Notre-Dame de Lourdes. Il y a un certain nombre de villes aux États-Unis qui s'appellent Lourdes. La fille de Madonna s'appelle Lourdes.
Oui.
Enfin, vous voyez, c'est une notoriété mondiale.
Tout à fait. Alors, l'évêque de Tarbes a la lumineuse idée, ou peut-être lui force-t-on la main, en tout cas, il achète la grotte. Et c'est extraordinaire, puisque ça appartient après à l'Église, évidemment. Et à partir de quand est-ce que ça prend une ampleur vraiment phénoménale?
Le déclic, c'est il y en a deux. Il y a d'abord 1862, le mandement donc de Monseigneur
Laurent. Les apparitions
Laurent,
sont reconnues par l'Église.
Donc explique que l'Église catholique considère le récit de Bernadette Soubirous comme véritable, authentique,
qu'il y a
donc eu des apparitions reconnues par l'Église. Cette validation est très importante parce que un certain nombre de catholiques ont attendu le feu vert des autorités avant d'effectuer le pèlerinage. D'autres catholiques ne l'ont pas attendu, mais c'est un sujet très très actuel. D'ailleurs, à Medjugorje, actuellement, en ex-Yougoslavie, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des apparitions rapportées par des personnes, et tant que l'Église catholique n'a pas officiellement reconnu, un certain nombre de catholiques ne s'y rendent pas.
Cela dit, il y a pas mal de suspicions concernant le dossier justement de Medjugorje.
Oui, mais on est dans la même démarche que pour Lourdes, c'est-à-dire que en 1862, on reconnaît officiellement que Lourdes est une cité mariale.
Ouais.
Alors, très intelligemment, l'évêque a acheté précédemment, avant que les prix ne flambent, les terrains autour de la grotte.
Très bon coup.
Et ces terrains englobent donc à la fois la cavité rocheuse, mais aussi un certain nombre de champs autour qui permettent d'édifier assez vite une première église qui va devenir un lieu de pèlerinage. Et c'est là le deuxième tournant, après la défaite, surtout après la défaite de 1870. Vous le savez, on perd la guerre contre la Prusse, et un certain nombre...
Paris est envahi, je crois, hein, c'est ça ?
Voilà, Paris est occupé.
Ouais.
Un certain nombre de catholiques pensent que la France paye alors le prix de son impiété, ou d'une certaine manière doit faire preuve de pénitence, d'esprit de pénitence, pour se racheter. C'est le moment où est construite à Paris où est construit le Sacré-Cœur, l'église du Sacré-Cœur. C'est le moment où se développe ce qui deviendra le pèlerinage national. C'est le moment où a lieu le premier pèlerinage dit des bannières, un pèlerinage qui rassemble des représentants de toutes les provinces de France, qui viennent avec une enseigne, une sorte de drapeau, qui sont d'ailleurs ces drapeaux conservés au musée du Trésor et exposés aujourd'hui. Parmi ces bannières, deux sont drapées d'un voile noir. Ce sont évidemment les provinces d'Alsace et de Lorraine que la France vient de perdre en 1870. Et c'est vrai que ce pèlerinage des bannières, ce pèlerinage national, va se développer d'autant plus facilement qu'en 1866, le train est arrivé à Lourdes. On est au tout début de l'aventure ferroviaire. Depuis les années 1840, on développe le réseau des compagnies de train à travers la France, qui ne sont pas encore unifiées au sein de la SNCF, mais qui le seront après-guerre. Et en 1866 arrive le premier train à Lourdes, est déjà chargé de pèlerins, ce qui va d'une certaine manière contribuer au succès aussi de ce sanctuaire, c'est la facilité d'accès.
Oui. Et puis les miracles qui vont continuer à se produire jusqu'à nos jours finalement.
Alors, c'est l'autre point, c'est l'aspect spirituel des choses, c'est l'aspect miraculeux que nous documentons dans ce livre, c'est l'objet de la dernière partie. Il y a un certain nombre de guérisons. Alors, ces guérisons, le chiffre total des guérisons, selon, je cite bien, le bureau médical de Lourdes, qui est tenu par le...
Qui est vraiment la référence en la matière.
Qui est la référence, qui est tenue, selon ses détracteurs, par des médecins très très catholiques, donc qui défendent aussi, d'une certaine manière, le sanctuaire. Il faut l'avoir en tête, quand on... Mais bon, ces guérisons sont au nombre de 7200, 7500, selon les sources. Seuls 67 cas de guérison sont considérés par l'Église catholique comme relevant du miracle.
Oui.
Car vous le savez, il y a une procédure très longue,
très complexe.
Très complexe. Pour...
Et puis surtout, il y a énormément de scientifiques qui se penchent sur ces dossiers. Ça, il y a un sérieux qui, à mon avis, ne peut pas être remis en cause là.
Alors, il y a eu une procédure de validation qui a évolué au fil des années. Cette procédure, nous la décrivons, alors sans vouloir rentrer trop dans les détails, et on a essayé de rester aussi lisible et facile d'accès que voilà pour que chacun prenne plaisir à la lecture de ce livre. Hein. Ça se lit, vous le disiez, comme un roman parce
vraiment,
que c'est incroyable, c'est vrai, cette histoire est vraiment fabuleuse. Les guérisons d'abord ont été filtrées entre guillemets par des médecins de l'université de Toulouse, et puis on a créé assez vite une commission, et depuis 1947 cette commission est composée d'une vingtaine de spécialistes reconnus du monde entier, qui constituent donc le bureau médical, le bureau international médical de Lourdes, qui sélectionne les cas de guérison inexpliquée et qui les soumet ensuite à l'approbation de l'évêque une fois que les médecins ont reconnu qu'ils n'étaient pas en mesure d'expliquer les cas de guérison.
Ouais, bah ouais, tout à fait. Alors, parlons d'une dernière chose concernant Bernadette Soubirous, c'est son corps. Son corps qui est resté étonnamment intact.
Alors ça, on est après sa mort, donc forcément, 1879, elle est enterrée à Nevers. Immédiatement s'enclenche une procédure de béatification. Cette procédure de béatification, là aussi, est très longue, très complexe. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'événements miraculeux qui viennent corroborer donc le caractère un petit peu saint du personnage.
Hein. Oui,
et elle va devenir bienheureuse, mais il va falloir pour cela exhumer son corps pour examiner sa dépouille. Ces exhumations vont être au nombre de 3. Elles vont intervenir au tout début du XXe siècle. Et à chaque fois, les médecins vont être étonnés par l'état de conservation du corps. Le corps semble comme momifié. La peau est certes parcheminée, un peu noircie par le temps, mais les ongles sont dans un très très bon état. Et les personnes qui vont voir le corps de Bernadette vont être tous saisies par ça, par le caractère un peu surnaturel de. Alors, quand on examine les rapports des médecins qui procèdent à ces exhumations, ils relèvent qu'il y a de la sciure et du charbon dans le tombeau. D'où l'hypothèse qui a été émise par deux médecins, Thérèse Vallot et Guy Vallot, dans les années 50, en 1957. Ils ont publié un livre qui s'appelait « Lourdes et l'illusion ». Un livre qui parfois est très profondément anticlérical, mais qui relève et qui émet l'hypothèse que le corps de Bernadette aurait peut-être été traité pour en assurer la conservation. De fait, l'Église catholique n'a pas parlé de miracle pour cet état de conservation du corps. Voilà, depuis, le corps a été recouvert d'une mince couche de cire qui autorise l'exposition donc de la dépouille de Bernadette dans une châsse en verre qui est encore visible à Nevers.
Étonnamment, son corps, sa dépouille, est visible par tout un chacun. Il suffit pour cela de se rendre à Nevers.
Oui. Voilà. Donc
vous y êtes allé vous-même?
Je ne me suis pas rendu moi-même à Nevers, parce que nous avons concentré tous nos efforts sur, comme le titre l'indique, les archives de Lourdes. Le corps est visible. Les photos montrent que on est face à un corps recouvert d'une fine pellicule de cire. Ça relève plus du musée Grévin que d'autre chose. On ne voit pas son corps véritable. Le corps est recouvert d'une sorte de masque pour le visage et des mains en cire pour le reste du corps.
Alors, Benoît et Chapaz, parlons de cette deuxième partie qui est tout aussi passionnante, l'histoire de Lourdes et de cette grotte. Alors, vous l'avez évoqué très rapidement, ces grottes ont été habitées très très tôt dans l'histoire de l'humanité.
Oui. Je suis tombé des nues, c'est le cas de le dire, lorsque je me suis penché sur cette partie de l'histoire de Lourdes. Quand on parle de Lourdes, évidemment, on pense tout de suite à Bernadette Soubirous.
Bien sûr. Oui.
Là-dessus, je pense que peu de gens savent qu'il y a 14 grottes sous cette ville. Des grottes qui ont été explorées par un certain nombre d'équipes d'archéologues et qui ont dévoilé un mobilier archéologique extraordinaire. Il y a donc à peu près une douzaine de scientifiques qui se sont penchés sur ces grottes. On publie plusieurs rapports de fouilles. Les plus anciens datent des années 1860. Le plus intéressant, à mon sens, est signé Alphonse Milne Edwards, qui était un naturaliste très connu à l'époque, qui est devenu quelques années plus tard directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, et qui inspecte la grotte qui est située juste au-dessus de Massabiel, qui s'appelle la grotte des Espélugues, et qui analyse les découvertes qu'il y fait, et qui prétend que on est en présence d'une résidence princière. Il pense que les silex taillés, les objets retrouvés sur place, accréditent l'idée que on est face à un habitat d'une personnalité importante de l'époque.
Oui.
D'autres personnes vont fouiller la
Quand vous dites
grotte.
De l'époque, là, on est à la préhistoire.
Alors, il faut, oui, là aussi, ah. il faut donc, oui, imaginez qu'on est il y a 14 000 ans,
oui.
donc à l'époque du Néolithique. D'autres personnes vont fouiller cette même grotte des Espélugues. Certains sont moins connus, comme la famille Frossard. D'autres, comme Eugène Dufourcet, ne sont pas des archéologues à proprement parler. Eugène Dufourcet était juge au tribunal de Lourdes. Mais à l'époque, en 1860, il n'y avait pas réellement d'études d'archéologie. Donc, tout un chacun faisait ses fouilles et examinait les objets. Et alors, Eugène Dufourcet publie un rapport qui, aujourd'hui, est un peu décrié par la communauté scientifique, puisque, encore une fois, il était magistrat et non pas archéologue. Et lui, il analyse ses découvertes. Il découvre des corps dans la grotte et il explique que nous sommes en présence d'un sépulcre et de la dernière demeure d'un certain nombre d'hommes préhistoriques. Et il émet l'hypothèse qu'il y avait certainement des rituels qui accompagnaient les cérémonies funéraires de l'époque. En ce sens, il se rapproche d'un certain nombre de conclusions d'autres archéologues de l'époque. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va retrouver des objets gravés qui vont représenter des sorciers. Et notamment un galet gravé, qui est un archéologue alors là, très connu de l'époque. Quelques années plus tard, l'abbé Breuil va décrire abondamment, et nous publions l'intégralité de son rapport.
Alors, une pause, et on va se plonger un petit peu en détail sur ce lieu dont on va s'apercevoir que finalement, ça devait être un lieu de culte déjà depuis la nuit des temps. Et ça, c'est intéressant.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Les archives secrètes de Lourdes parues aux éditions privées. Jean Omnès et Baudouin Échappas en sont les deux co-auteurs. Baudouin Échappas est mon invité depuis plus d'une heure maintenant dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Alors, rentrons un petit peu plus en détail dans ce rapport de cet archéologue. Vous êtes d'accord avec moi, Baudouin Échappas, pour dire que finalement, là où Bernadette Soubirous, en 1858, a vu les apparitions de la Vierge, c'était un lieu de culte depuis la nuit des temps, finalement.
Alors, oui, à une nuance près. Ce n'est pas exactement dans la grotte de Massabielle qu'ont lieu les découvertes archéologiques, mais juste au-dessus,
voilà.
À 250 mètres en amont. S'il y a eu, par le passé, d'éventuels rites de cérémonies dans les grottes de Massabielle, le mobilier a été emporté par le Gave qui coule donc à son pied et qui de temps en temps inonde d'ailleurs les lieux. Donc on n'a pas retrouvé d'objets archéologiques dans la grotte de Massabielle où a eu lieu les apparitions. En revanche, un petit peu plus haut, dans cette grotte que nous évoquions un petit peu plus tôt, qui s'appelle la grotte des Espélugues, et qui a depuis été transformée, elle aussi, en lieu de culte, en 1886, des gens décident de faire une nouvelle campagne de fouilles, la toute dernière, parce que l'endroit doit être vidangé de tous les gravats qui l'obstruent.
Oui.
Et donc on sort des monceaux et des monceaux, des tonnes et des tonnes d'objets, des ossements, des gravats, et à l'époque on pense que ce sont de vulgaires cailloux, mais en réalité ce sont des dépôts archéologiques de la plus grande importance que l'architecte du sanctuaire, qui s'appelle Léon Nelly, va inspecter. Il est architecte, mais il voit qu'il y a des objets quand même dans ces tas de gravats qui sont intéressants. Et il ramasse notamment une petite statuette qui représente un cheval. Ce sera le cheval des Espélugues, on va le baptiser comme ça.
Oui,
une petite sculpture sur ivoire de mammouth qui aujourd'hui est au musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye et qui est une des plus belles représentations de cheval de l'époque préhistorique. Il va également retrouver dans ses gravats un galet gravé qui représente, comment vous le décrire, un homme barbu, coiffé visiblement de on peut penser que ce sont des plumes, enfin, en tout cas il y a des traits qui montent en l'air, et qui est visiblement habillé d'une sorte de manteau avec à l'extrémité comme une redingote, en tout cas une queue. Et donc l'abbé Henri Breuil, qui est l'un des premiers préhistoriens reconnus, puisqu'il avait, vous savez, inspecté les grottes d'Altamira en Espagne ou de Lascaux en France, va se pencher sur cette gravure et il va décrire cette gravure assez longuement, donc dire qu'elle représente un homme entier de profil avec un crâne dolichocéphale, c'est-à-dire plus long que large, et d'autres archéologues vont affirmer qu'il s'agit d'un chaman, d'un sorcier d'encens.
Un sorcier d'encens, c'est beau quand même, très belle découverte d'ailleurs.
Alors cette affirmation est sujette à caution, on le dit dans le livre, cette interprétation est aujourd'hui discutée au sein de la communauté scientifique, mais il n'en demeure pas moins qu'on a retrouvé d'autres pierres gravées au même endroit qui accréditent quand même l'idée que nous sommes en présence d'un lieu de culte depuis cette époque préhistorique, donc depuis 14 000 ans.
Alors, Benoît Echappas, je ne résiste pas au plaisir de vous demander de nous raconter une petite légende concernant cette fois-ci le rocher sur lequel était adossée la statuette de la Vierge, la grotte de Massabielle.
On l'a évoqué en début d'émission.
Oui.
il y avait un certain nombre de légendes qui circulaient depuis le Moyen-Âge à Lourdes sur cette grotte. Ces légendes, elles ont continué à circuler à l'époque moderne, y compris au sein de l'Église. Et nous avons retrouvé dans les Annales de Lourdes, dans le tome 32 précisément, pour être très précis, de 1900, le texte d'un père, du révérend père Fournoux, qui nous raconte qu'il y avait peut-être des sacrifices humains dans cette grotte.
Ouais.
Alors, ça va évidemment susciter pas mal d'émotions au sein de l'Église catholique. Et l'évêque de l'époque va quelques années plus tard plutôt demander à ce que l'on vérifie ces informations.
Ouais.
Monseigneur Choquet va demander à ce qu'on explore la grotte et il va confier cette exploration à un géologue, Norbert Castéret, qui va grimper en tenue de spéléo dans le conduit où est censée être apparue la Vierge. Et pourquoi va-t-il inspecter cette grotte? Parce que le révérend père Fournoux avance l'idée que la pierre sur laquelle serait apparue la Vierge ne serait pas de la même matière, ne serait pas constituée du même matériau géologique que le reste de la grotte.
Autrement dit, elle aurait été rapportée là.
Voilà. Alors ça, c'est son hypothèse. Il affirme qu'elle aurait été rapportée. Par qui? Pourquoi? Il explique que ça pourrait être une pierre sacrificielle.
Ah, nous y voilà, justement.
Il l'affirme, mais il ne le démontre pas.
Ouais,
et donc, Norbert Castéret, lui, va se pencher surtout sur la nature de cette pierre, et il va expliquer, après s'être hissé à l'aide d'une échelle aux grandes dames des pèlerins qui le voient faire en plein milieu de journée, le 6 février 1940, il va grimper là-haut et il va dire, nous sommes face à un bloc morénique qui est descendu à l'époque glaciaire, lorsque l'ensemble de la région était couverte de glace et de neige. Nous sommes face à vraiment une pierre normale.
Tout à fait naturelle, rien d'exceptionnel.
En revanche, ce qui est passionnant, c'est qu'il va dresser un plan de coupe de cette grotte.
Et vous le, d'ailleurs, vous.
Et nous le publions, et on découvre que c'est un véritable labyrinthe derrière cette grotte. Ce n'est pas seulement une grotte, mais il y a une sorte de conduit qui remonte à travers le rocher. Et c'est d'ailleurs à travers ce conduit que naît la source dite de Massabielle et qui résulte de l'infiltration de l'eau de pluie qui redescend à travers ces rochers jusqu'en bas de la cavité.
Et on imagine sans peine l'émotion qu'a dû ressentir cet homme lorsqu'il est rentré dans ce lieu considéré comme sacré finalement et qu'on lui a donné l'autorisation de le fouiller de fond en comble en quelque sorte.
C'était... Ah oui, je pense que l'émotion.
Pour lui, ça devait être assez.
Ce géologue, ce scientifique ne cache pas qu'il est très catholique, très croyant. Donc, il le dit. D'ailleurs, c'est écrit de manière très touchante son rapport. C'est écrit à la première personne. On n'est pas du tout dans la rédaction d'un rapport administratif quelconque.
Ouais,
on imagine facilement que Hiram Bingham, lorsqu'il découvre Machu Picchu, ou Howard Carter, quand il explore la tombe de Toutankhamon, n'a pas plus d'émotion que Norbert Castéret rentrant dans la grotte. Pour lui, il rentre dans un lieu totalement sacré, tout à fait extraordinaire.
Et alors, vous avez agrandi un petit peu le cercle, vous êtes éloigné de la grotte pour explorer un petit peu l'histoire de Lourdes dans son ensemble. Et vous rapportez une énigme, parce qu'évidemment dans Les Aventuriers de l'Étrange, nous sommes friands d'énigmes, vous en doutez, d'une sorte de sculpture, de ferronnerie, enfin on ne sait pas trop, un petit homme de fer.
Oui. Alors, on explore toute l'histoire de Lourdes. On explore l'Antiquité, on a évoqué la présence de temples à l'époque romaine.
Oui.
Et là, on se retrouve à l'époque médiévale.
Voilà, nous sommes au 14e, 15e siècle.
Voilà, 14e, 15e siècle. Ce texte est signé Jacques Omnès, à qui d'ailleurs je rends Omnès, qui est le frère de mon co-auteur, qui est un archéologue, qui a consacré beaucoup, beaucoup de son temps et de son énergie à l'exploration d'un certain nombre de sites archéologiques de la région. Il a recensé l'ensemble des sites préhistoriques de la région, et c'était le correspondant du CNRS localement. Il nous a beaucoup aidé pour la constitution de ce livre, et je le remercie beaucoup. Donc cet homme de fer qu'on retrouve assez tardivement dans la cour du château, on le retrouve au début du 19e siècle, il est très intrigant. Pour vous le décrire, c'est une figurine donc en fer forgé qui représente un homme, les yeux sont des trous, le nez est un trou de la même manière, la bouche est une fente, et il est doté d'un étonnant nombril. Et Jacques Omnès, qui est donc l'auteur de ce texte, s'interroge sur la signification de ce nombril. Et il émet diverses hypothèses très, très passionnantes, dont l'une renverrait au culte du Saint Nombril. Vous savez que tout au long du Moyen-Âge, un certain nombre de reliques sont vénérées à travers toute la chrétienté.
Oui, il y a,
il y a des bois de la croix à peu près partout.
Dont on pourrait faire une forêt de croix d'ailleurs.
Oui, mais il y a surtout des ossements des divers saints. Il y a aussi le voile de la Vierge à Chartres.
Bien sûr, oui.
Il y a le sanctuaire évidemment à Turin, et il y a un certain nombre de choses plus étonnantes qui sont des parties du corps du Christ qui sont vénérées. Alors il y a
j'ignorais des parties du corps du Christ.
Oui oui, certaines personnes. Alors on n'est pas seulement là dans la couronne d'épines ou dans le morceau
ou la tunique d'Argenteuil qui est à côté de Paris.
Est carrément dans des parties du Christ. Donc le nombril par exemple aurait été conservé, et une légende se propage à travers la chrétienté qu'il y aurait un certain nombre d'endroits où il y aurait des fragments du Saint Nombril. Il y aura le prépuce du Christ qui donc étant juif donc
a été circoncis,
il y aura aussi un culte de cette partie de son corps,
c'est
un peu la quête du Graal,
la
quête des objets, enfin des objets, des éléments qui rappellent l'incarnation physique d'un personnage devenu ce que l'on sait.
Ah, c'est tout à fait étonnant. Une pause et on va faire la conclusion ensemble, Baudouin et Chappas, et là va tomber la question que je gardais pour la fin, évidemment. Vous demandez votre intime conviction comme si on était dans un tribunal. Ouais. Mais enfin, je veux dire, ce que vous pensez, vous, après avoir mené cette enquête, qui a duré combien de temps, grosso modo, pour rassembler, compulser, consulter, écrire ce livre et consulter toutes ces archives?
Bah, on était deux, donc si l'on cumule le temps qu'on a passé tous les deux, ça fait plusieurs mois. Je calcule jamais, parce que comme je suis toujours à chaque fois passionné par mon sujet, je ne compte pas. Mais je ne fais qu'un livre par an. On peut considérer que c'est à chaque fois une année de travail.
Une année de travail, c'est ça, tout à fait. Oui, avec le temps de réflexion, etc., et de l'écriture, bien entendu. Alors, Baudouin et Chapin, une pause, et ensuite, nous allons en arriver, évidemment, à la conclusion. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
C'est la dernière partie de cette rencontre avec un des deux auteurs de ce livre que je vous recommande, Les Archives secrètes de Lourdes, aux éditions privées, le sous-titre Aux sources des miracles. Les deux auteurs sont donc Baudouin et Chapas et Jean Omnès. Alors, Baudouin et Chapas, un an de travail, écriture, consultation évidemment de toutes les archives, exhumation de certains documents tout à fait inédits, d'autres pour la plupart assez rares. Vous vous êtes fait évidemment votre propre opinion au sujet de ces apparitions, de ce qu'a vécu Bernadette Soubirous. Il est temps maintenant de nous livrer le fruit de vos réflexions. Évidemment, ça ne concerne que votre avis personnel, bien entendu, que l'on ne retrouve pas d'ailleurs dans le livre. Vous avez tenu à garder quand même une neutralité et à livrer le plus possible les faits, rien que les faits.
Oui, bah ça c'est la religion que je me suis fait. Je suis donc journaliste. Dans ma précédente livraison, on avait fait une enquête avec un journaliste sur la présidentielle, et à aucun moment nous n'indiquions pour qui nous allions voter, alors que mon co-auteur et moi avions voté chacun pour un des deux candidats opposés pour être sûr de ne pas être suspecté d'être partisan. Et bien là, c'est la même chose. À aucun moment nous ne dévoilons ce que nous croyons. Moi personnellement, je ne suis pas catholique, donc je regarde ces manifestations avec un œil extérieur, mais avec un très grand respect pour les foules de fidèles qui se pressent à Lourdes depuis des années. Je ne veux pas parler pour Jean, mais il me semble qu'il a une démarche tout à fait différente. Je pense qu'il est catholique, et lui, lourdais, d'une vieille famille lourdaise, lui, donc, a un autre regard. Donc moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai un regard extérieur, étranger. Je ne crois pas donc à ces apparitions au sens de la foi. Je n'ai pas donc la foi catholique, mais je considère ça comme un événement historique très intéressant, parce qu'il témoigne d'un moment clé de l'histoire de France, parce qu'elle raconte vraiment une période charnière de l'histoire de Lourdes, et parce que on voit vraiment, que le récit soit véridique ou qu'il soit inventé, comment s'élabore ce qui est aujourd'hui un mythe, ce qui est aujourd'hui, mais au sens noble du terme, ce qui est aujourd'hui une légende, et donc sans juger sur la valeur théologique, hein, c'est pas un livre de théologie, moi je me suis passionné vraiment pour ces archives secrètes de Lourdes.
Mais dites-moi, Baudouin et Chapas, j'entends bien votre opinion, en se penchant, sans être ni déformé ni faisant preuve au contraire de mauvaise pensée à l'égard de la foi chrétienne ou catholique, qui est éminemment respectable, une fois de plus, tout de même, ce qu'a vécu cette jeune fille Bernadette Soubirous, la manière dont en parlent les observateurs, qu'ils soient croyants ou pas, d'ailleurs tous ont rapporté la même chose, les différents avis, et puis quand l'on connaît l'ambiance dans laquelle tout cela s'est produit, pas beaucoup d'objectivité, s'enflammer assez rapidement, franchement, il y a peu de chances pour que l'on croie réellement aux apparitions. En revanche, ce qui s'est passé après, cette foi extraordinaire qui a fait bouger des montagnes, est éminemment respectable. Ne croyez-vous pas que c'est plutôt la foi et non les apparitions qui ont créé vraiment Lourdes ? Je veux dire, les pèlerins qui ont créé Lourdes et non pas forcément les apparitions ?
c'est les deux. Au départ, il y a quand même c'est cette expérience mystique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement arrivé devant elle, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans sa tête? On est obligé quand même de considérer que, un, Bernadette Soubirous a réellement existé, deux, qu'elle a réellement raconté ce récit, alors que l'on croit ou que l'on ne croit pas, mais enfin, elle l'a prononcé, elle l'a raconté, ce récit a été ensuite examiné, alors là, vraiment, sous toutes les coutures, hein, par à la fois la police, la gendarmerie, on n'a pas parlé des rapports des juges qui sont, eux, les plus sceptiques, le procureur impérial de Lourdes ou le procureur général de Pau, qui sont extrêmement sévères à l'égard de Bernadette. Mais,
ah bon? Oui.
Bon, c'est l'un des 100 textes, enfin il y a un peu plus de 100 textes dans ce livre. On est obligé quand même de considérer qu'au départ il y a cette femme, cette jeune fille hein, de 14 ans qui fait ce récit. Et bon, la seule qui sache réellement, c'est finalement Bernadette Soubirous.
Bien sûr.
Et n'étant pas dans sa tête, je ne peux pas vous dire oui c'est vrai ou non ce n'est pas vrai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, elle a déclaré un certain nombre de choses. Elle a fait un certain nombre de choses, elle se rendait régulièrement à la grotte. Bon, elle était la seule à voir ce qu'elle a vu. Est-ce que c'était quelque chose, une expérience mystique, c'est quelque chose qu'elle a vécu en son fort intérieur, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui était à l'extérieur de soi? Là, nous ne pouvons pas trancher.
Et nous n'aurons jamais la réponse.
Et nous n'aurons jamais la réponse. Tout à fait, c'est une affaire de croyance, et ça regarde chacun.
Ouais. Et est-ce que finalement vous avez pris du plaisir à être à Lourdes, à vous promener dans ces rues et à découvrir cette ville?
Écoutez, oui. Je ne connaissais pas Lourdes, je l'avoue, hein, humblement, je ne connaissais pas du tout Lourdes avant. Et comme beaucoup de gens, j'avais plein d'images véhiculées par la télévision, par la presse. Et donc, fatalement, on arrive avec des préjugés. Et je pensais tomber dans une ville, une sorte de Disneyland un peu de la foi. J'ai été, alors sans doute parce que j'étais escorté par un Lourdais qui m'a montré d'autres aspects de ville, qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres choses à voir que ces boutiques et ces hôtels. Et voilà. J'ai découvert une ville passionnante. Non seulement parce qu'elle attire en effet 6 millions de pèlerins par an, mais parce qu'elle a une histoire millénaire, une histoire vieille de 14 000 ans, qui montre que de tout temps ça a été un haut lieu de spiritualité, qu'à tous les moments de l'époque humaine, des gens se sont interrogés sur la transcendance, sur ce qui nous dépasse, sur le sens de la vie, sur ce qu'il y a après la mort. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont le plus touché, parce qu'ils se perpétuent encore aujourd'hui sous une forme que nous connaissons, qui est celle donc du culte catholique, mais qui avait déjà des prémices dans ces grottes préhistoriques que nous évoquions au cours de cette émission.
C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Baudouin Echappas, d'avoir accepté mon invitation pour venir nous raconter cette quête des archives secrètes de Lourdes.
Merci à vous.
Mais écoutez, c'était un grand plaisir. Donc, votre co-auteur s'appelle Jean Omnes. C'est un livre publié aux éditions privées. Dernière chose pour conclure, vos projets ont un rapport lointain, proche, avec quelque chose qui puisse intéresser les aventuriers de l'étrange?
Je vais continuer, moi, à explorer les coulisses. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en tant que journaliste.
Ouais.
Toujours comprendre le monde dans lequel on vit. Tout début, j'avais commencé par comprendre les cuisines du guide du Routard, le guide le plus connu de France.
Belle expérience.
J'ai voulu ensuite explorer les coulisses de la présidentielle. Là, on est dans les archives secrètes de Lourdes. Je vais continuer à examiner d'autres institutions. Mais pour le moment, c'est encore des projets secrets.
Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Baudouin Echappas. Bonne fin de soirée et à très bientôt.
À très bientôt, j'espère.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
C'est fini pour les aventuriers de l'étrange pour ce soir. On se retrouvera demain soir, juste après le rugby, à partir de 22h jusqu'à minuit, pour parler du hasard et des coïncidences. Est-ce que le hasard existe? Qu'est-ce que le hasard? Et les coïncidences, qu'est-ce que c'est? Est-ce que finalement il y a des lois mathématiques plus ou moins inconnues qui régissent tous ces phénomènes que l'on peut prendre des fois pour des phénomènes paranormaux? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec un maître de conférence à la Sorbonne. Et ensuite, nous découvrirons ce qu'a vécu un personnage qui est un artiste maintenant, qui vit au bord de l'océan, qui est sculpteur et qui a des talents assez intéressants après avoir vécu une NDE. Vous découvrirez ça demain soir dans Les Aventuriers de l'étrange, ici même sur Sud Radio, de 22h à minuit. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, direction le site psyland.org et également le forum pour continuer à discuter entre vous des différents sujets abordés dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez donc nous rejoindre sur psyland.org, psyland.org. À demain soir.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.